On se retrouve pour un nouvel épisode bien longtemps après avoir enregistré le dernier. Mais on va parler aujourd'hui de trucs très drôles et en même temps assez comiques parce que ça découle d'une anecdote que Rémi vient de me raconter. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que pour remettre du contexte, ça fait quelques mois maintenant que Rémi partage beaucoup de ses moments du quotidien, de sa parentalité sur TikTok et sur Instagram. Et on peut se le dire.
Quelques mois.
Ouais, quelques années. Non, mais vraiment, genre en vidéo, tu vois.
En vidéo, ça fait presque 2 ans, je dirais quand même.
Ouais, mais genre en vidéo, très souvent, genre tous les jours, j'ai l'impression que ça fait quoi, 1 année?
Ouais, on va dire dans ces eaux-là.
Ouais. Et ben, depuis que c'est comme ça, tu commences à devenir famous. Et je trouve ça très. Alors, on en rigole avec Rémi, on va vous dire pourquoi. Et en fait, grâce à tous ces partages. Il y a une anecdote que tu m'as racontée par rapport à un TikTok, je crois, que tu as publié. Et j'aimerais bien que tu commences par ça, parce que du coup, c'est le sujet de l'épisode qu'on va faire aujourd'hui.
Donc, pour remettre du contexte, j'essaie de me rappeler, d'ailleurs.
Il vient de m'en parler, il s'en souvient plus.
Oui, non, mais je voudrais remettre du contexte.
Vas-y, contextualise. Il pointe le doigt vers le ciel.
Je vais vérifier.
Et il check son téléphone, tel un...
Influenceur. Ça y est, ça me revient. Donc, pour remettre du contexte, si vous n'avez pas vu passer cette vidéo, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo où je parlais d'une anecdote, en toute vulnérabilité, si on peut dire ça comme ça, où notre fille s'était blessée, enfin blessée, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, elle s'était cognée à la tête.
On en parlera dans un autre épisode, ça va être le sujet d'un autre épisode.
Très fortement, et du coup j'ai parlé de cette anecdote-là, et notamment le fait que je m'étais inquiété et que j'avais besoin d'un avis médical sur cette question. Suite à cette vidéo, j'ai eu des commentaires, j'ai eu pas mal de commentaires de haters, notamment à me dire « mais c'est ridicule de s'inquiéter pour juste un choc à la tête », voilà. Et j'ai quelqu'un, notamment, qui m'a dit, c'est les mamans qui s'inquiètent. Attends, comment il m'a dit ça? Les mamans sont plus impressionnées que les papas, ou un truc du genre, tu vois.
Ouais, lol.
Sur le moment, ça m'a pas fait plus réagir que ça, parce que j'ai l'habitude qu'on me dise efféminé ou quoi, voilà, donc ça me perturbe pas plus que ça. Et assez vite, finalement, je me suis dit que ce commentaire, c'était pas si bête, parce que ça permet de mettre en évidence le fait que, les mamans s'inquiètent peut-être plus que les pères, mais pourquoi? Parce que beaucoup de pères ne s'impliquent pas dans leur relation parentale. Beaucoup de pères ne s'impliquent pas auprès de leurs enfants, ne s'intéressent pas à leurs enfants. Et donc, j'ai fait une vidéo sur ce sujet en disant que, ouais, effectivement, beaucoup de pères n'en ont rien à foutre, c'était les mots que j'ai employés, n'en ont rien à foutre de leurs enfants. Et ce à quoi la personne qui m'avait mis ce commentaire a surenchéri en me disant... Bon, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit au départ, mais du coup, il m'a posé une autre question en me disant pourquoi les pères qui s'impliquent se sentent obligés de se féminiser.
Oui.
Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui,
oui.
De cet épisode.
Exactement.
Est-ce que les bons pères vraiment se sentent obligés de se féminiser? Ça a été le sujet d'une autre vidéo que je trouvais... Parce qu'en fait, finalement, les commentaires de ce hater étaient assez intéressants parce que ça apportait des sujets... justement plutôt pertinent à discuter autour de la parentalité, du sexisme, de l'équilibre de la charge parentale au sein du couple hétérosexuel, tout ça. Et du coup, j'ai fait cette vidéo pour discuter de cette question. Et j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que la vidéo était super intéressante, mais trop courte. Ben oui, parce que le format Reels et TikTok, c'est autour de
une
minute, 2 minutes, voilà.
Ouais.
Et elle m'a dit qu'elle aurait voulu que ça dure plus longtemps. Donc on s'est dit, ok, pourquoi pas faire un épisode de podcast là-dessus. Je sais pas si on sera réellement exhaustif sur la question, parce que, comme je l'ai déjà dit, que ce soit toi ou moi, nous ne sommes pas sociologues, nous ne sommes pas chercheurs, on fait pas des études avec des stats et tout le bordel. Donc il s'agit toujours de notre opinion, de notre vécu, de ce qu'on observe. et ce n'est jamais...
Et c'est biaisé de base, voilà. De toute manière.
Et, mais ce ne sont pas des réflexions qui viennent de recherches et d'études. Voilà.
On invitera des gens bien plus, bien plus informés sur ce sujet pour pouvoir en parler. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça a fait écho à des choses avant même qu'on soit parents. C'est que depuis le début, ta manière de réagir a toujours été comparée à celui d'une femme, comme si les traits que tu avais en tant que personne devaient être forcément genrés parce que tu te comportes. Enfin, il y a vraiment, il y a depuis qu'on se connaît en fait, hein, pour remettre du contexte, ça va faire. On est en train de se le dire d'ailleurs que l'année prochaine, on va fêter 20 ans de relation.
D'amour.
Ouais. C'est là où on se dit waouh, c'est chaud. Ça fait un moment. Mais en fait, depuis que je te connais, t'as toujours eu des réflexions. On t'a toujours fait des réflexions sur ça.
Depuis que je me connais aussi, oui.
Ouais, grave. Grave.
Non, mais depuis que je suis tout petit.
Non, mais
depuis
même...
que je suis tout petit, on remet en question, c'est ce que je dis souvent, on remet en question mon statut de garçon, puis d'homme.
Ouais, et là, donc de père maintenant, parce et que comme t'es devenu père, qu'est-ce que ce sera après? Ce sera grand-papa ça... On espère que la société aura un peu changé depuis. Mais clairement, c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent sur la table. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de voir qu'il y a...
Que ça me poursuit.
Ouais, que ça... Non, mais c'est pas ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est... Je sais pas, je trouve que c'est la voie de la facilité, en fait, pour beaucoup de dire oui, mais bon, de toute façon, t'es un peu comme une femme ou t'es un peu comme une mère, tu vois. Mais en fait, c'est un peu remettre, encore une fois, sur le dos de la femme, le truc genre, bah, toi, t'es un peu... Comme s'il y avait deux camps, tu vois. Et ça, moi, ça m'embête parce que du coup, c'est... Et
puis, il y a un côté
biaisé.
Il y a un côté essentialiste en disant que finalement, le rôle de parent, c'est le rôle de la mère, comme si c'était biologique. Et un homme, du coup, comme ce n'est pas une femme, comme ça n'a pas les attributs biologiques nécessaires, bah, ça pourrait pas être... Enfin, c'est pas à lui que revient le rôle de parent. Et c'est complètement con. C'est complètement con de se dire ça, parce que de toute manière, même si c'était vrai, même si au départ, quand on était pas civilisé, entre guillemets, si c'était réellement le cas, si à l'époque de la préhistoire, vraiment c'était les mères qui avaient le rôle parental et le père n'était pas là. On a quand même évolué vers une certaine civilisation où la culture a énormément de place, etc. Enfin, on peut plus utiliser les arguments biologiques pour ce genre de sujet, vu qu'on s'est beaucoup trop éloigné de tout ce qui touche à nos instincts et nos héritages naturels.
Et toi, alors faut aussi, vous pourrez écouter les épisodes où on parle de l'IF et tout. Ça va faire bientôt un an. Est-ce que t'as remarqué que t'es... Enfin, moi, j'ai remarqué que quand on allait, par exemple, avec Charlie à la médiathèque ou au parc, un peu moins au parc, parce que ça, je sais pas, c'est le stéréotype de c'est un truc en extérieur, tu vois, même moi, je suis un peu biaisée dans le truc. Mais j'ai remarqué qu'à la médiathèque, c'est rare de voir des hommes seuls ou même... tu vois, genre, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on est vraiment toujours les extraterrestres. Genre, on est ensemble, soit c'est toi avec Charlie. Moi, plus rarement, parce que je suis moins présente avec tout ce que j'ai à faire. Malheureusement, ce sera aussi le sujet d'un autre épisode, je pense. Mais vraiment, c'est un truc que j'ai remarqué, le fait que tu sois soit qu'avec elle,
bah après, soit ensemble. La médiathèque, même des adultes seuls... Mais la plupart des adultes seuls qui vont à la médiathèque, c'est en grande majorité des femmes. Hein. En tout cas, de ce que je vois quand j'y vais.
Ouais.
Du coup, ça remet un peu le truc. De toute manière, les lieux des livres, c'est un truc de femmes. Alors, tu sais, dans notre médiathèque, il y a une partie ludothèque pour des jeux, pour les enfants. Il y a aussi des jeux de société et tout. Mais bon, à la base, quand même, à la médiathèque, c'est quand même un lieu de livres. Et... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui y vont que d'hommes. Et donc, effectivement, bah, quand ils viennent avec leurs enfants, bah, c'est surtout des mamans qui viennent.
À la gym aussi, tu vois, quand on va...
Oui, d'ailleurs, en parlant de gym, on avait entendu... Enfin, je sais pas si t'étais là, d'ailleurs, à ce moment-là, mais...
Non.
On a une connaissance qui était venue avec... avec son enfant et elle disait bah j'ai proposé à mon mari de venir soit s'occuper du bébé, parce que du coup il y a un bébé, ou la plus grande qui doit faire sa séance de gym. Elle lui a dit bah soit tu restes avec le bébé, soit tu viens à la séance de gym de la plus grande. Et il a dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à la gym?
Oh putain. Comment tu veux ensuite, franchement, moi ça me... Je sais pas possible. Enfin, et oui, mais la question c'est d'après toi. La réponse est à trouver.
Regardez ta fille, peut-être.
À ton avis. Faut juste... Je pense que dans ces moments-là, il faut répondre par une question. Ça incite à réfléchir.
Mais le truc, c'est que quand la maman m'a raconté ça, elle, ça l'a pas choqué, tu vois, elle trouvait ça normal, et elle a juste dit, bon, bah voilà, donc tu restes avec le bébé.
Oui, genre tu décides pour lui, quoi.
Ouais.
Oui, mais non, mais ça va pas du tout. Dans tous les cas, ça amène aussi à tout ce truc de charge mentale, de soulance. Mais dans l'idée, moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir que être un bon parent, en fait, faut forcément qu'il y ait des choses qui soient soi-disant féminisées. Enfin, comme s'il y avait des... Enfin, je trouve ça fascinant de tout de suite féminiser le truc. Comme si on avait... Bah, je pense que, comme tu dis, ça porte toute la charge sur la femme et que le père, c'est un peu l'accessoire brillant qui, quand il est là, ça va, et que dès que tu commences à avoir une attitude entre guillemets de maman, bah, tout de suite, t'es dans la team femme.
En fait, ce qui est, il y a un peu un double standard, une sorte de paradoxe aussi, parce que les pères, dès que... Enfin, la, comment on appelle ça, la... Les attentes sont tellement basses sur l'implication des pères que dès qu'un père change une couche ou promène son bébé dans une poussette ou quoi, on va... Ou porte en porte-bébé. Parce que même ça, moi, je l'ai constaté, du coup. Ouais. Quand j'avais Charlie en porte-bébé et que je sortais dans la rue, mais les regards des femmes sur moi étaient... genre, c'était de l'admiration.
Ça avait de l'amour dans les yeux.
Et c'est dingue, en fait, parce qu'une maman qui porte en écharpe, bon, pas du tout avoir ce genre de regard d'admiration, de félicitations, voilà. Mais un père, oui, parce que les attentes sont tellement basses et que c'est tellement rare de voir ce genre de scène que tu fais bravo, quoi. Bravo, félicitations, vous êtes un père extraordinaire.
Comme un enfant.
Un peu,
ouais. C'est un peu ça, hein.
Alors que il a rien fait de spécial, il a rien fait d'incroyable, il a juste fait ce que la plupart des mamans font.
Ouais.
Et qui ne reçoivent pas de louanges pour ça. Mais par contre, un papa, oui.
Ouais.
Et c'est ce qu'on appelle le dad blessing. Mais du coup, voilà, donc il y a ce côté-là où dès qu'un père fait le moindre truc, on va quand même le féliciter. Et d'un autre côté, il y a cette idée que un bon père... Alors c'est quoi? C'est le niveau au-dessus? Le bon père, c'est le niveau au-dessus, je sais pas. Un bon père, est-ce que ça veut dire qu'on l'aurait castré, qu'il aurait perdu une part de sa virilité, qui serait allé dans l'autre camp, le camp des femmes?
Mais en fait, je pense que c'est le côté, dès que tu es gentil et dans l'émotion, t'es plus un homme, tu vois? Donc t'es plus un père. Tu vois, tu parlais d'intelligence émotionnelle tout à l'heure quand on en discutait. Il y a vraiment ce truc de, quand tu vas dans ce penchant-là, tout de suite...
Bah, disons que ça fait pas partie des stéréotypes masculins. Quand on réfléchit aux stéréotypes masculins, tu penses pas à, ah, bah, l'intelligence émotionnelle, la communication.
C'est parfait.
Ça rentre pas trop dans la liste des codes virils, quoi.
Exactement, ouais. Ce qu'il faut.
Donc forcément, ça pose question. Et puis, dans les rôles traditionnels du père aussi, c'était pas du tout ça, quoi. Dans la tradition machiste, le rôle du père, c'est pourvoyer aux besoins du foyer. Et lorsqu'on dit ça, on parle surtout d'argent.
On t'en a fait des réflexions dernièrement. Je pense qu'on n'en a jamais trop parlé, mais je me suis toujours demandé, depuis qu'on a eu Charlie, si on t'avait fait des réflexions par rapport à ça. Je crois pas qu'on en ait trop parlé.
Non, parce qu'en même temps, les gens savent pas.
Que tu es une femme.
Quoi?
Est-ce qu'apparemment qu'on est dans le truc de...
Non, mais les gens savent pas comment fonctionnent nos revenus.
Ah,
tu vois, les gens...
Oui et non, parce qu'en fait, en soi, je pense que... Mais sans parler de revenus, parce qu'en fait, il suffit juste de voir la dynamique de comment tu es présent pour Charlie, tu vois, par exemple. rien que dans, que ce soit dans nos proches ou même sur les réseaux sociaux. Et ben je pense que
alors ceux qui nous connaissent que sur les réseaux ou de l'extérieur, etc., je pense qu'ils savent pas vraiment comment on fonctionne ni rien. Donc en fait la question ne se pose peut-être pas. On me pose pas de questions sur ça bizarrement. Je sais pas, ça m'intéresse pas, j'en sais rien.
Ou alors
ils se concentrent vraiment sur des détails débiles comme le vernis ou des trucs comme ça, tu vois. Et du coup ça.
Oui, les choses qu'ils voient, en fait.
Voilà, ça occulte tout
raconte
le reste.
Raconte le truc du vernis, parce qu'il faut du contexte si on ne suit pas sur les réseaux sociaux.
Donc, j'ai commencé à porter du vernis quand j'avais 15 ans, en inspiration de mes chanteurs, mes musiciens préférés, etc. Et je ne sais même plus pourquoi j'ai arrêté, d'ailleurs. Mais j'ai arrêté à plus ou moins quand je suis allé à la fac.
Est-ce que c'est du taf de mettre du vernis en verre? Hein, on en parlera après.
En fait, je pense que c'est aussi parce que comme j'avais tout un attirail, on va dire, parce que je portais du vernis, mais j'avais aussi un piercing à la bouche,
je
portais du maquillage. J'ai arrêté le maquillage parce que je commençais à avoir des chalazions et je pensais que c'était à cause de ça. Et j'avais retiré mon piercing aussi. Bon, je sais pas, j'ai décidé d'arrêter le vernis en même temps. Et donc, des années se sont passées sans que je mette de vernis. Toi, tu as eu ta période où tu allais voir une prothésiste ongulaire pour te faire tes ongles parce que tu aimais bien avoir de jolis ongles qui brillent avec du nail art et tout.
Il veut les paillettes.
Et puis cette année, tu as eu envie de développer tes propres skills dans la matière. Donc, tu as acheté tout le matos et tu as commencé à vouloir t'entraîner sur toi. Et puis, je t'ai dit...
T'as surtout demandé direct à ce que je te
fasse. Oui, je t'ai dit, moi, j'aimerais bien te servir de cobaye.
Me servir de toi pour avoir des ongles tout propres.
Je veux bien être ton cobaye. Voilà, ça m'amusait de... Puis, tu sais pas, c'est un moment qu'on passe ensemble aussi. Donc,
c'est vrai.
Voilà, moi, j'adore ça, qu'on a des...
Un peu de torture, des fois, malheureusement, parce que je suis une débutante.
Non, mais qu'on a des moments... Peu importe, moi j'aime les moments où on est vraiment concentré l'un sur l'autre. J'appelle ça des moments de qualité.
L'un sur l'autre, retenez bien. L'un sur l'autre, très concentré.
et puis je sais pas, comme c'était un nouveau centre d'intérêt pour toi.
Ah mais c'est clair.
Je voulais participer avec ça. Enfin, à chaque fois que tu découvres des nouvelles passions, c'est comme quand tu as découvert les cosmétiques asiatiques. Je me suis aussi intéressé à... Enfin, je m'intéresse à ce qui t'intéresse, quoi, tout simplement. Je m'intéresse à ta vie. Et donc, quand t'as des passions, j'aime savoir, voilà. Même si, effectivement, les cosmétiques asiatiques, ça, c'était pas ma passion, mais j'aimais quand même m'intéresser à ce que toi, tu t'intéresses.
Ouais.
Et le vernis, la prothésie angulaire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le fait que tu fasses du vernis semi-permanent, que tu apprennes à le faire et tout par toi-même, j'ai voulu vraiment m'intéresser à ce que tu faisais. Et ça me ramenait à l'époque du lycée et tout, donc c'était cool. Et puis en plus, j'ai eu le déclic en même temps, à peu près sur la même période, d'arrêter de me ronger les ongles. Et je me suis rendu compte que le vernis, ça m'aidait aussi à ne pas me ronger les ongles. Donc tout un mélange de raisons qui font que je reporte du vernis en ce moment. Ça, je sais pas combien de temps ça durera. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, j'en aurai marre, j'en sais rien. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais toujours est-il qu'en ce moment, je porte du vernis.
Et on le voit dans tes vidéos, forcément.
Voilà. Et ça fait réagir. Pas mal.
Du coup, on te dit des choses par rapport au vernis. C'est marrant, hein, juste au vernis.
Un des trucs qui correspond un peu au sujet de cet épisode, notamment qu'on m'a dit, c'est « un père ne porte pas de vernis ».
C'est marrant parce que je me demande qu'est-ce qu'un père porte du coup. Et j'aimerais bien que ces personnes répondent pour qu'on puisse savoir ensuite c'est quoi leur standard d'un père. Parce que je pense que c'est développé dans ce que nous on a eu comme parents ou ce qu'on imagine être un bon père qu'on n'a peut-être pas forcément eu. Mais évidemment, il y a toujours ce point de comparaison. Et moi, je sais que je prends en compte moi, par exemple, mon père, c'est un point de comparaison pour ne pas faire exactement ce qu'il a fait. Il y a plein de choses. En fait, je pense qu'il y a beaucoup, 99% des trucs, c'est genre, il a fait ça, ne le faisons pas. C'est un peu ça l'idée.
Un contre-exemple.
Un très bon contre-exemple. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir un très bon contre-exemple d'un parent toxique ou d'un parent avec qui on parle plus depuis des années ou qu'on ne voit plus. Et donc clairement, ouais, il y a vraiment ce côté standard du père. Le père, il est là sans être vraiment là, mais il apporte des choses. Et moi, je trouve que c'est.
Mais oui, du coup, ça. Ouais, c'est ça. Tu nous ramènes au.
C'est bien, à l'origine.
Au sujet, parce que.
Origin story.
Un peu zappé le truc. Mais oui, donc le rôle traditionnel de ramener les thunes. Et aussi, le deuxième, parce que finalement, en fait, ça se joue sur deux trucs.
La thune.
La thune et le deuxième point, l'autorité. Voilà.
Ah oui.
Le père, c'est le mauvais flic. C'est celui qu'on appelle quand il faut faire des punitions, quand il faut donner la fessée. Voilà.
Quand il faut faire peur. C'est,
quand la mère est à bout sur une crise ou un moment difficile qui nécessite, selon les croyances traditionnelles, une punition, eh ben elle en appelle au père parce que le père est censé être la figure d'autorité pendant que la maman est la figure des câlins et du soin. Voilà, oui. Parce qu'effectivement, il faut une paire d'ovaires pour faire des câlins et des soins à son enfant.
C'est le prérequis pour aimer quelqu'un dans l'autre sens et montrer, démontrer et démontrer. Dans la démonstration de ses émotions, sans ça, tu ne peux pas. Apparemment. Clairement.
Les testicules apportent trop d'autorité qui empêchent finalement toute forme d'expression d'amour.
Et on sait bien que le vernis réduit les testicules à néant, et quand on l'enlève, elle repousse.
C'est quand même pratique tout ça.
C'est fou. Hein. Par contre, une anecdote que je voulais partager, et peut-être que du coup, l'épisode discussion autour de ça. D'ailleurs, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Rémi, qui parle beaucoup de parentalité sur Instagram et TikTok. On mettra ça en barre d'infos. Mais une anecdote que je voulais raconter, et j'essaye, en y repensant, à depuis quand ça date. Mais Rémi, peut-être tu sauras. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Charlie, qui va sur ses 4 ans, au moment où on fait cet épisode, depuis un moment, hein, je pense pas que ça fait juste quelques semaines, hein, ou quelques mois, ça fait un moment. Quand elle veut nous appeler, c'est pas rare qu'au lieu de dire maman ou papa, elle dit mampa ou plus rarement papement. Hein. Je pense que c'est
si
plus dur
arrive,
à dire.
Ça arrive.
Ouais.
En fait, mampa, c'est quand elle veut m'appeler moi.
Ouais.
Et quand elle t'appelle toi et qu'elle donc elle a ce bug, elle dit papma.
Papma. Ouais.
Et en
fait, c'est trop, drôle,
c'est
en fait.
Trop drôle en fait. Mais c'est le truc classique comme quand t'es à l'école et que au lieu de dire maîtresse, tu dis maman.
Mmh. Mais là, c'est un mot qui n'existe
oui,
pas.
Oui, c'est un mot qui n'existe pas. Mais en fait, c'est parce que. Alors, je sais pas si c'est une étude sérieuse ou quoi. Voilà, j'ai pas fait des recherches là-dessus. Mais apparemment, quand tu te trompes dans les prénoms ou dans les. Titre, enfin, c'est un titre, papa, maman, je sais pas, ou dans les surnoms, on va dire, c'est parce que dans ton cerveau, c'est rangé dans le même groupe de personnes, tu vois. Donc, quand, par exemple, un parent qui se trompe dans les prénoms de ses enfants, parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs, bah, en fait, le parent se trompe parce que son cerveau a rangé... ces personnes dans sa mémoire dans le même groupe
ah,
c'est ses enfants
ensemble,
quoi. C'est dans le même groupe et du coup c'est aussi beau ça que certains parents comme mes parents
ah
à
ouais,
moi
alors,
se trompent
là.
Avec le nom des chiens et que ils t'appellent avec le nom du chien
ça c'est surtout ta mère c'est ta mère surtout non mais toi ça t'arrive mais moins souvent. Mais ta mère,
moi, je t'ai jamais appelé Ghost, non, moi. Mais... J'ai jamais appelé Charlie Ghost.
Non, mais moi, par contre, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir appeler Charlie et de dire Ghost une fois.
Ah bon ?
Mais sans faire exprès, parce qu'il y avait Ghost dans le coin.
Mais personne fait exprès.
Non, mais
ma mère, elle fait pas exprès.
Non, mais ta mère, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle est là.
Oui, elle se trompe une fois et après,
Julie,
elle passe par...
Charlie, en fait, c'est comme si elle ouvrait tous les onglets.
Après, elle fait toute la liste des personnes qu'elle connaît jusqu'à tomber sur le bon.
Ghost, elle a... Ah non, c'était Charlie. D'accord, c'est bon, on y est. Du coup, le temps qu'elle fasse tous les prénoms, on a le temps de rigoler. Hein, parce que et c'est la bonne, c'est bon, on peut y aller. Ça, c'est drôle.
Et du coup, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand elle se trompe comme ça, elle dit pas... Genre, elle te dit pas papa au lieu de maman, elle dit papement.
Oui.
Et moi, quand elle se trompe, elle dit pas maman au lieu de papa.
Ouais.
Elle dit mampa. Et c'est trop drôle en fait. Et ça montre, enfin, moi c'est une théorie, j'en sais rien, moi je sais même pas comment on pourrait le vérifier de pourquoi elle a ces petits bugs parfois. La théorie que j'ai et qui peut-être fait du bien à l'ego de se dire ça, mais la théorie que j'ai, c'est que finalement, elle a un lien d'attachement similaire entre nous, tu vois, on est autant sa figure d'attachement l'un que l'autre, tu vois, alors que souvent on dit qu'il y a une figure d'attachement principale qui est souvent la maman, et qu'après il y a des figures d'attachement secondaires. Et le fait qu'elle ait créé ce mot mampa et papement,
ouais,
je me dis maintenant, encore une fois, c'est une théorie, et peut-être que je me fais cette théorie parce que ça fait du bien à l'ego, mais je me dis que si elle a ces bugs et qu'elle a inventé ces... Enfin, elle a même pas fait exprès de les inventer, c'est des lapsus. Je me dis que c'est peut-être que on est tous les deux autant figure d'attachement principale l'un que l'autre et que...
Bah, j'espère. Après,
qu'il n'y a pas de hiérarchie.
Ouais. Après, moi, là, ce sera l'occasion d'en parler dans un autre épisode, je pense, mais j'ai toujours, en tout cas, ces derniers mois, cette dernière année, l'impression de pas être assez là, tu vois. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une bonne chose parce que d'un côté, ça permet de, sans qu'on cherche à le faire, parce qu'on pourrait se dire, ouais, ils sont à fond, genre militants, c'est le mec à la place de la femme qui s'occupe de l'enfant, tu vois. Mais en soi, la dynamique, elle est comme ça. T'es plus souvent avec elle en ce moment que moi, je le suis. Et en fait, au final, ça va. Enfin, au niveau de... Je sais pas, il y a quand même ce truc de... On pourrait dire, genre, en mode père au foyer, tu vois, on pourrait dire ça, que presque on a inversé la tendance et que c'est bien d'être dans cette nouvelle dynamique, d'inverser les rôles, entre guillemets. Mais moi, je crois que j'ai un problème avec ce truc d'inverser les rôles. Je pense que c'est important de...
Mais pour moi, c'est pas une inversion, c'est juste qu'on s'autorise à vivre notre parentalité comme on a envie de la vivre.
Mais dans
une question de prendre le rôle de l'autre ou quoi.
Mais dans le respect de ce qu'on a envie de faire, genre chacun sa part, et comme on fait pour le mieux. Mais je pense qu'il y a carrément un problème dans cette idée de rôle de maman-papa, tu vois. Je pense que j'ai... Mais je pense que ça, c'est même c'est engrainé. Il y a des trucs qui sont en nous, dans le sens où, par exemple, moi, par exemple, je pense que si parfois je culpabilise de pas être assez là, c'est parce que je pense qu'on a sûrement trop la vision qu'une mère doit être plus là que le père, tu vois.
Et,
et du coup, ça, c'est vraiment problématique.
Oui.
C'est vraiment problématique parce que ça veut dire que ça pèse. Alors qu'en fait, non, c'est.
Bah, ça fait partie des différentes pressions sociales qui existent et qui font chier.
Et qui
parce qu'on s'en passerait bien. Mais ouais, pour revenir sur la question, est-ce que dans ce que tu as pu observer, les mauvais pères sont typiquement masculins, et est-ce que les bons pères te paraissent plus féminins que les mauvais pères?
Bah, moi, je pense qu'on
mauvais père est peut-être un peu fort comme mot, mais est-ce que les pères désengagés ou peu impliqués sont typiquement masculins ou très virils? Et est-ce que les pères plus impliqués te paraissent plus féminins?
Je pense pas parce que
tu observes.
Je pense pas parce que si on va dans les stéréotypes, on pourrait dire qu'un père poule ou très surprotecteur et très viril serait même envahissant et très contrôlant. Et c'est pas forcément. Et on pourrait se dire que c'est pas forcément trop impliqué, tu vois. On pourrait se dire aussi que c'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle. Et ça, pour moi, c'est pas une bonne chose pour une relation avec un enfant, d'être en mode tu restes à la maison, je te surveille, genre en mode princesse enfermée dans un château.
Ouais, mais ça, c'est le rôle typique de l'autorité, mais ça veut pas dire que le père est impliqué. Parce que tu vois, donner des ordres et être contrôlant auprès de son enfant, ça veut pas dire que tu t'intéresses à son enfant. Tu vois, tu peux lui donner un cadre hyper rigide, mais ne pas connaître, ne rien connaître sur lui. Tu vois.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas de... C'est ça aussi, c'est que j'ai que l'exemple que j'ai moi, ou que je vois. Et qu'en fait, moi, ça me dérange profondément de dire ça, c'est un attrait féminin-masculin, parce qu'en fait, c'est du bullshit total. Et qu'en fait, je pense que plus on va dans ces catégorisations, plus on s'enfonce. Parce qu'en fait, au final, on cherche encore une fois à dire ça, c'est maman, ça, c'est papa, tu vois.
Ouais.
Et après, en même temps, je pense, et c'est une réalité, que père ou mère, des personnes qui sont impliquées comme pour donner un exemple concret, c'est genre qu'est-ce qu'aime mon enfant, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime pas, c'est quoi qu'il aime manger, c'est quoi qu'il aime faire sortir, qu'est-ce qu'il passionne en ce moment, qu'est-ce qu'il a fait aussi, parce que bon, c'est aussi juste ça, hein, c'est genre il s'est passé quoi cette semaine, parce que ça tu vois, je suis même persuadée qu'il y en a beaucoup qui savent pas. C'est lié à l'émotion. Et je pense que tant que tu es pas dans la vulnérabilité et dans une ouverture, donc ça veut dire ouvrir un peu la boîte si jamais tu l'as fermée pour justement plein d'autres raisons, plein de raisons qui t'appartiennent, ben tu peux pas t'ouvrir à l'autre, quoi. Et ça peut faire peur à beaucoup de personnes. Mais le truc, c'est que moins on ouvre cette porte, plus on se ferme à se connecter à quelqu'un, dont son enfant, et du coup ben ça fait qu'après on a des relations qui sont vides et ça peut durer des années et finir par avoir genre des relations hyper plates ou rien finalement. Et effectivement, je pense qu'on dit beaucoup, voilà, c'est les émotions, c'est les femmes, émotion égale femme, tu vois, c'est surtout ça. émotion
autant positive que négative, ouais.
Ouais, mais il y a un peu le côté la seule émotion qu'on pourra attribuer à un père, genre c'est normal, c'est
la
genre
colère.
La colère. Ouais, la colère. Tout le reste, c'est pas possible.
Et une femme en colère, c'est une femme hystérique.
Voilà. Et donc, il faut qu'elle se calme. Super. Donc.
Mais après, ouais. Ça rejoint ce que je disais dans la vidéo où le seul truc où je pourrais avoir l'impression qu'un père qui s'implique, c'est un père qui se féminise avec des grosses guillemets. C'est que pour s'intéresser à son enfant, vouloir travailler sur sa relation à son enfant, la préserver, la construire, etc., ça implique de faire un travail d'intelligence émotionnelle et d'intelligence relationnelle, ce que l'on attache typiquement et par stéréotype aux femmes.
Oui.
Et maintenant, la question, c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on considère que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui appartient aux femmes.
Et ça, je trouve que ça change un peu, tu vois. J'ai l'impression que ça change un peu, mais que quand on devient parent, c'est plus difficile parce qu'en fait, on a la charge de l'intelligence émotionnelle de son enfant pour l'accompagner là-dedans. Et on a la nôtre en même temps qui peut être... Ça fait forcément effet miroir et ça peut être lourd, en fait, surtout quand tu es dans une société justement où tu dois, tu vois, tu le vois, hein, on déconstruit. Et je pense qu'on n'est pas tous prêts à ça, mais je trouve que ça change, tu vois. Maintenant, est-ce que tout le monde le fait ou tout le monde va le faire, ça je sais pas. Mais je trouve qu'en parler et montrer d'autres formes de parentalité à travers l'œil d'un papa, par exemple, ou d'une maman, ou des deux, ou de plein de parentalités différentes, ça permet de montrer le champ des possibles. Et j'ai l'impression que ça, pour le coup, tu vois, je trouve que ça change un peu. Après, est-ce que ça se voit dans le quotidien? Pas forcément, parce qu'on a encore beaucoup d'exemples, comme tu l'as donné, hein, au tout début, de gens qui disent à quoi ça sert, tu vois, que je gêne... Parce que je pense qu'eux-mêmes, on leur a pas offert ça, et donc on est quand même dans la répétition classique de... Tu vois, genre, on m'a tapé et je n'en suis pas mort, tu vois. C'est la version on m'a tapé, j'en suis pas mort, mais sur tous les autres trucs. Genre, moi, j'ai pas eu ça, mais je suis encore là. Hein. Et ça va en surface. Donc, j'ai l'impression que ça change, mais que ça prend du temps et que c'est un peu dur d'être le pivot.
Après, moi, ça me pose plein de questions sur les relations, les rôles traditionnels homme-femme, père-mère. Dans le sens où, à l'époque, effectivement, c'était le père qui travaillait pour amener l'argent. Parce qu'un seul salaire suffisait pour maintenir la maison et tout ça. Et du coup, effectivement, les mères n'avaient pas besoin d'aller travailler. De toute façon,
elles n'avaient pas le droit.
Donc ça règle le problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, un salaire, à moins d'avoir un salaire incroyable, un seul salaire... suffit rarement. En tout cas, dans la grande majorité des cas, les mères et les pères travaillent. Parce qu'on a besoin des deux salaires pour maintenir le foyer.
Même, il y en a qui ont envie d'avoir...
Oui, de s'épanouir professionnellement, tout à fait, bien sûr. Aussi. Mais je veux dire, ce rôle de faire de maintenir le foyer, il n'est plus l'exclusivité des pères. Dans les, enfin, statistiquement, ça se vérifie. Et ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant que les mères travaillent autant, voire dans certains cas peut-être plus que les pères, bah, ça les empêche pas d'avoir leur charge parentale, tu vois. Donc qu'est-ce qui fait qu'à l'époque où c'était que les pères qui travaillaient, bah pourquoi, qu'est-ce qui les empêchait de le faire, en fait, finalement ? Finalement, c'était pas une excuse valable.
Bah, ils faisaient les moments un peu cool de temps en temps, tu vois.
Oui, mais du coup, c'est pas une réelle implication de son rôle parental.
Bah, pour eux, je pense que si. Parce que je pense que j'ai vraiment l'impression que ça suffisait, tu vois.
Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que si une mère peut avoir toute la charge qu'avaient les pères à l'époque, aujourd'hui,
tout en
et continuer d'avoir la charge que les mères avaient à l'époque aussi. Donc en fait, c'est comme si elles avaient doublé littéralement la charge.
C'est pas comme si, c'est qu'elles
ont elles
doublé,
la charge qu'elles avaient. Et elles arrivent à le faire.
Mais parce que c'est plus...
Donc pourquoi les pères ne peuvent pas le faire ?
Parce qu'ils
veulent pas le faire.
Non, mais c'est parce qu'en fait, quelqu'un le fait déjà, alors pourquoi je le ferais, tu vois ? C'est genre, tu t'en charges, donc c'est bon, en vrai. Et en fait, ça, c'est vraiment le truc... Vraiment, le côté petite fille qu'on a bien éduquée à faire les choses dans le bon ordre, c'est voilà, tu dois faire ça, on te montre qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, c'est genre, c'est pour ça que beaucoup de femmes ne veulent pas avoir d'enfants, et c'est très bien par rapport à ça, parce qu'il y a d'autant plus d'exigences, et c'est parfait, c'est à quoi bon avoir des enfants alors que j'en ai déjà un. Qui est donc la personne avec qui je vis, et qui elle-même n'assume pas ses responsabilités, et donc n'assume pas non plus ce que ça veut dire d'avoir un enfant et dire « Ah ouais, on va faire un enfant ensemble ». Non, ça suffit pas, tu vois, il faut autre chose. Et donc, clairement, il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, c'est pas... D'ailleurs, j'ai dit ça sur... un post sur mon compte, ça n'a rien à voir avec la parentalité, mais ça a à voir avec le business aussi, et ça marche aussi. C'est pas parce que tu peux tout faire que tu dois tout faire, tu vois. Et malheureusement, ben, il y a ce poids de « On te demande de faire ça, et de faire ça, et de faire ça. Tu peux le faire, continue, continue. » Jusqu'au moment où, en fait, ras le cul. Et donc, en ce moment, on est dans la période « Ras le cul, on sait très bien. » Genre, c'est « Tu veux ça ?» Ben, on a plus d'exigences, tu vois. Et donc, maintenant, forcément, je dis pas que c'est tous les couples ou toutes les relations, mais maintenant, il y a des personnes qui choisissent justement de dire non à une parentalité parce qu'en fait l'autre ne prendra, il y a une conscience que l'autre ne prendra pas sa part, en fait. Et donc à quoi bon, tu vois, c'est là, ça saoule. Ça saoule fort. Heureusement, c'est pas mon cas, je le pense pas, sinon on aurait pas cette conversation. Mais clairement, je pense que là il y a une redistribution des choses en ce moment sur le rôle de chacun.
Je me demande aussi si, d'un point de vue systémique, le fait que dès l'enfance, on dit aux petits garçons, tu dois pas pleurer, etc. Enfin, surtout, n'apprends pas à comprendre tes émotions.
Ah oui.
Est-ce que ça ne les construit pas à devenir des pères qui peuvent pas faire ce travail émotionnel, qui peuvent pas embrasser aussi les émotions que comporte le fait de devenir père ?
Ah oui, c'est des cailloux, quoi. Petit caillou.
Ouais, je...
Comment tu veux être ouvert aux émotions des autres si toi-même tu enfin, mais même en tant que parent, quand on a à peu près ça, genre moi par exemple, le truc dur, c'est par rapport à la colère, parce que à chaque fois, je pense à chaque fois que je me mettais en colère ou j'étais pas d'accord, on te disait de te calmer, de pas parler, de rien dire, et à force, ben tu coupes tout, mais ça coupe pas. Et à internaliser. Je pense que il y a cette espèce de violence ou cette espèce de colère en toi, mais en fait, quand tu vois ton enfant en colère, t'as juste envie aussi qu'il s'arrête, parce que toi-même, t'as pas eu le droit. Donc pourquoi lui, il aurait le droit ? Tu vois ? Et je pense qu'il y a vraiment ce truc très froid, et en fait, ça fait boule de neige. Et c'est pour ça que c'est important de... C'est hyper dur, mais c'est important de le faire, ce travail. Mais il faut avoir l'envie de le faire pour soi. Et donc... Quand on est dans le, j'ai l'impression, quand on est dans le truc du quotidien et qu'on sait déjà qu'on a tout à gérer, quand on n'a pas une fenêtre pour pouvoir avoir cette discussion et avoir le courage ensuite de le faire et être accompagné à ça, c'est pas la mère qui a toute la charge, qui va prendre le rôle de la psy de son, tu vois, il faut vraiment que ça aille ensemble. Moi, je comprends qu'on n'ait pas l'énergie, tu vois. aussi quand on et d'autant plus quand on a l'énergie de le faire avec l'autre. Donc oh, on part dans des directions dans cet épisode. Dans tous les sens. En tout cas, pour répondre perso, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut se féminiser pour être un bon père? Pour moi, c'est des grosses conneries qui amènent à un point de... C'est au-delà de, des stéréotypes, c'est plus profond que ça. Et en fait, il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça veut dire déjà être un bon père pour... tout court? Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de, enfin de, moi je trouve ça dingue en fait, de mettre ça directement sur des traits féminins, soi-disant.
Ça me rend dingue. Disons quand même que dans les faits, socialement, comme on l'a dit, tout ce travail émotionnel, etc., c'est quand même actuellement beaucoup plus féminin.
Ouais,
donc oui, dans
juste.
Un sens, sur, oui, non, je dis pas que c'est juste, mais dans un sens sur ce côté-là. Je pense que ça implique une certaine féminisation, mais en réalité, il faudrait surtout qu'on arrive à abolir, à abolir les stéréotypes de genre et arrêter de dire que le travail émotionnel, c'est de l'ordre des femmes et que les hommes n'ont pas à faire ce travail-là, que les hommes doivent se détacher de leurs émotions et ne garder que la colère.
Ouais. C'est, Ouais. Mais je pense que dans le quotidien, du coup, ce serait plus... se questionner, et je comprends que ce soit super chiant parce que je me mets à la place de quelqu'un qui a pas forcément une... Enfin, j'essaye, hein, c'est pas du tout mon cas d'écoute et d'avoir le genre de personne qui dit à quoi bon, tu vois. Et c'est une charge mentale supplémentaire de devoir dire à l'autre personne de réfléchir et de dire, bah, à ton avis, parce que je pense que ça fait ça et voici ce que ça fait avec ton enfant. Et je sais ce que ça fait parce que je pense que ma mère faisait ça avec mon père. C'est vraiment... Bah justement, avec mon frère, elle faisait ça. C'était genre, oui, intéresse-toi à ce qu'il fait, parce que c'est à toi de le faire. Et c'est marrant parce que je me souviens d'un souvenir de mon père qui disait que lui, il en avait marre qu'on s'intéresse pas à ce qu'il fait lui.
Oui, ça revient à ce que tu disais, que c'est un autre enfant.
Mais vraiment, c'est ça.
C'est un autre enfant et c'est comme si c'était deux frères qui...
Mais même moi, hein, même par rapport à moi, je me souviens, oui, pourquoi il ne s'intéresse pas à ce que moi, je... Ouais. Après, il y a toute une dimension psychologique de... je pense qu'il est, il a des problèmes mentaux, enfin, il y a des choses. Et qu'en plus, il était vraiment... Il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais c'est là où tu te dis, mais les rôles sont inversés. Et les dynamiques sont pas les mêmes. Et du coup, toi, en tant qu'enfant, tu subis la dynamique d'un enfant qui, lui, n'a pas... Et c'est des poupées russes remplies de caca, tu vois. Ça ne s'arrête pas. Donc, vraiment...
Alors qu'en fait, je pense que ça se fait naturellement. Si tu nourris la relation avec ton enfant va forcément s'intéresser à toi et à ce que tu fais.
Mais ça demande du temps, ça demande des efforts et ça demande de... Ouais, ça demande...
Mais en fait, et ça remet aussi le truc de... Ton enfant ne te doit rien. c'est toi qui l'a fait venir au monde. Donc c'est pas. Enfin, ton enfant ne te doit pas de s'intéresser à toi. C'est toi qui l'a fait naître. Donc tu te démerdes. Ton enfant, il a rien demandé. Donc c'est à toi de faire d'abord les premiers pas. Enfin, moment c'est à ton enfant de les faire, non?
Tu te souviens, on avait parlé d'un truc et je trouve que le raccourci est assez flagrant, tu sais, en mode oui, si tu veux un enfant, c'est un peu on avait fait le raccourci, genre c'est un peu comme vouloir un animal de compagnie, et même un animal de compagnie, tu fais pas ça en mode voilà, c'est là et après on fait quoi, oui. Tu vois. Et c'est pareil, genre oh, il aime pas faire des câlins. Tu sais, genre les chats, par exemple
Ghost, oui.
Notre chat, il était pas jusqu'à maintenant, là maintenant il devient pot de colle, c'est peut-être la vieillesse.
Non, mais il aime pas, enfin c'est pas le chat
il va pas se poser sur tes
genoux. Pas l'image du chat classique qui se pose sur tes genoux, qui vient faire des ronrons. Il montre son affection à sa manière, il se pose à côté de nous.
Il s'étale sur le bureau.
Mais il se pose pas sur nous. Non. Et il aime pas être porté, voilà.
Et c'est un peu pareil, genre enfant-objet, animaux-objet, oui. Bah oui, mais bon, il aime pas qu'on lui touche la tête. Bah non, bah laisse-le. Enfin, et c'est un peu le même principe, je trouve. C'est fou. T'as plein de choses à dire. Mais vraiment, je pense que c'est... Là, on est vraiment dans une période où ça change, mais ça demande des efforts et qu'on soit... Je pense aussi que ça doit être... Je sais pas si ça peut être une question pour finir cet épisode. C'est pour toi, c'est pas trop dur? Ou je me demande comment tu vis le fait que justement on rapporte toute ta personne au fait d'être une maman ou je sais pas, genre... comme si t'étais...
D'être un homme efféminé.
Ouais, il y a vraiment un truc genre... choisir en fait qui tu es.
Mais je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque où tu avais ton blog de cosmétiques asiatiques.
Oh oui.
Il y a eu une période où je sais plus pourquoi, on s'était dit que ce serait bien que j'intervienne de temps en temps sur ton blog.
Oui, oui.
Et j'avais fait une série de 3 articles. Je crois qu'ils sont toujours présents. On peut les retrouver.
On les mettra dans la description de l'épisode.
J'avais fait une série de 3 articles. Cet homme que je ne suis pas.
Ah
un
oui.
Un truc
oui,
comme ça.
Oui.
Et en fait, j'explorais donc cette idée que on refuse mon statut d'homme, entre guillemets. Et j'expliquais que d'une certaine manière, c'était un peu ambivalent chez moi, à cette époque-là en tout cas, que d'un côté, je détestais l'image de l'homme classique, stéréotype, etc. Et en même temps, j'avais une forme d'envie presque. Enfin, c'était ambivalent comme ça, quoi. D'un côté, je le détestais, et d'un autre côté, j'enviais cet homme que je ne suis pas, tu vois. Je sais pas ce que j'enviais, en fait, parce qu'aujourd'hui, je l'envie plus du tout.
Ah bah voilà.
Mais
comme ça, c'est réglé.
Mais je sais pas, peut-être qu'à l'époque, je me disais que ça serait plus simple, tu vois. Ce serait plus simple si j'étais dans les stéréotypes de l'homme, tu vois.
Ouais.
Mais en même temps, je l'ai détesté. Enfin, c'était un peu bizarre. Ouais. C'était ambivalent. J'ai pas d'autre mot que ça. Et aujourd'hui, je sais que je l'envie plus du tout. Je l'envie plus du tout parce que plus on s'intéresse quand même à notre monde et plus on se rend compte, enfin, en tout cas personnellement, et plus je me rends compte que...
C'est pas ouf.
Non. J'ai rien à envier en fait à ce rôle que certains hommes veulent continuer à porter. Alors que c'est qu'un masque, hein, de toute manière. Et moi, j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer ce rôle-là. Et tant pis pour ceux qui veulent jouer ce rôle-là, tu vois. Mais j'ai pas envie. Donc, je me considère pas efféminé. Et si les gens trouvent que je le suis, je m'en fous. C'est pas. En fait, je m'en fous. Ouais, j'ai pas d'autre mot que ça. Tout est une question d'échelle, de comparaison, en fait, tu vois, parce que
ouais.
Si tu me mets à côté de quelqu'un qui, genre drag queen, tu vois,
ouais.
Une personne qui vraiment, ça lui fait plaisir de jouer le rôle du sexe opposé presque de manière caricaturale et tout, c'est son délire, tu me mets à côté de cette personne, ça serait un peu ridicule que tu me dises « je suis efféminé ».
D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui disait par rapport à une vidéo que t'as fait là avec les robes, t'amuser avec la robe et Charlie, et quelqu'un qui disait oh, il manquerait plus que tu sois une drag queen et je serais trop fan. Oh, d'accord. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a tellement, en fait, même avec le spectre des genres maintenant et l'ouverture à tout ce qui est LGBT, j'arrive plus à parler, LGBTQR+, QP, oh, vous avez compris, je sais plus comment on dit.
QIA+.
C'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai bugué la dernière fois? C'était TDAH. Ah oui. TDAH, TDAH. Ça sent la fatigue en ce moment. Donc,
c'est parce que tu veux le dire en anglais.
Ouais.
TDAH.
Oh, TDAH, c'est bien. Je crois qu'on se comprend.
En fait, les 2 dernières lettres en anglais sont inversées.
Oui. Oh, mais ça se voit que j'écoute trop de contenu en anglais ces derniers temps. Il y a vraiment ce... Bah, je sais pas, il y a... On y a tout pour tout le monde, mais je pense qu'il y a toujours cette espèce de catégorisation homme-femme de toute façon qui est très très codifiée, genrée chez les parents, en fait. Genre, il y a encore besoin de plus d'ouverture là-dessus. Et je pense que c'est pour ça aussi dans les dynamiques comme la nôtre, là, hétéro, ça fait bizarre pour beaucoup de personnes. Alors qu'en fait, non, c'est pas bizarre, c'est juste une nouvelle... C'est même pas une nouvelle manière, ça existe probablement depuis tout le temps, c'est juste qu'en fait, on le voit plus, on en parle plus, et maintenant, il est temps, en fait, d'ouvrir un peu ses chakras, quoi. C'est un peu l'idée. En tout cas, on espère qu'on aura éveillé peut-être la discussion ou les réflexions. Si vous voulez, vous pouvez continuer la discussion sur les réseaux sociaux, notamment sur nos comptes, on mettra ça dans... La description de l'épisode. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, je pense.
À bientôt.
À bientôt. Salut.